Allô, allô, ici Ciné Herri.
En pleine guerre froide, en 1962, le metteur en scène américain John Frankenheimer réalise un film, The Manchurian Candidate, qui sortira en France sous le titre Un crime dans la tête. Il s'agit de l'adaptation du roman de Richard Condon, The Manchurian Candidate, qui parut en 1960. Le scénario de George Axelrod apparaît complexe et trop touffu. Il entremêle scènes du passé et scènes du présent, scènes réelles et cauchemars. En fait, la volonté de conjuguer psychanalyse et réflexion politique sur la guerre froide reste peu aboutie et rudimentaire. Sergent pendant la guerre de Corée, le personnage interprété par Lawrence Harvey, Raymond Cho, a reçu la médaille d'honneur pour avoir sauvé la vie de 9 hommes qui l'accompagnaient en patrouille. Pour ce fait de bravoure, il a été décoré à la Maison-Blanche par le président des États-Unis en personne, ce que sa mère, une femme très envahissante et abusive, ainsi que son beau-père sénateur, se sont empressés d'instrumentaliser politiquement. Cependant, au lendemain de la guerre, son commandant de l'époque, Ben Marco, interprété par la star hollywoodienne Frank Sinatra, éprouve de plus en plus de doutes sur ce glorieux palmarès militaire. Ben Marco est en effet bouleversé par d'incessants cauchemars au cours desquels il voit en boucle toujours les mêmes scènes, des scènes qui infirment les exploits attribués à Raymond Cho. Après bien des tentatives, le major Ben Marco réussit alors à convaincre la CIA et le FBI d'enquêter sur Raymond Cho. Il est aidé et soutenu dans sa quête de vérité par sa compagne, Rosie, interprétée par la comédienne américaine Janet Leigh, qui 2 ans auparavant avait connu un immense succès aux côtés d'Anthony Perkins dans Psychose d'Hitchcock, la scène culte de la douche étant devenue un moment d'anthologie entré depuis au panthéon du cinéma mondial. Mais qui est réellement Raymond Cho? Ne serait-il pas un homme manipulé par les soviétiques? Un homme ayant subi un lavage de cerveau et tué certains de ses propres compagnons? Est-il un héros de la guerre de Corée ou bien un agent communiste infiltré aux États-Unis, dressé à tuer d'autres hommes grâce à des techniques pavloviennes dont l'efficacité n'est plus à démontrer? Rappelons brièvement ce que fut cette guerre de Corée dont il est question dans le film. Au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, le sort de la Corée, colonie japonaise depuis 1910, s'avérait difficile à fixer car les soviétiques avaient reçu la reddition japonaise au nord du 38e parallèle tandis que les troupes américaines occupaient la partie sud. Les désaccords à son sujet subsistaient entre les deux superpuissances. Bien que la conférence de Moscou se fût prononcée en décembre 1945, pour une tutelle collective destinée à favoriser une réunification ultérieure. Les tensions se développèrent le long de cette ligne de clivage jusqu'à ce que le conflit finisse par éclater le 25 juin 1950, les Nord-Coréens lançant une vaste offensive contre le Sud. La guerre oppose alors la Corée du Nord, soutenue par la Chine communiste et l'Union soviétique, aux forces des Nations Unies, essentiellement composées de divisions américaines, britanniques et françaises, soutenant la Corée du Sud envahie. Est adoptée le 3 novembre 1950 la résolution 377, ou résolution Union pour le maintien de la paix, appelée également résolution Acheson, du nom du secrétaire d'État américain, Dean Acheson, qui en prit l'initiative afin de contourner les vétos soviétiques au Conseil de sécurité. En l'occurrence, il s'agissait d'une résolution qui étendait les compétences de l'Assemblée générale des Nations Unies en matière de maintien de la paix au détriment du Conseil de sécurité. Après le conflit coréen, elle a été de nouveau mise en œuvre à plusieurs reprises, comme par exemple en 1956 au moment de l'affaire du canal de Suez, en 1960 au Congo ou bien encore en Palestine dans les années 80. Mais revenons à la guerre de Corée. L'armée onusienne, composée principalement de contingents américains, était dirigée par le vainqueur de la guerre du Pacifique et commandant suprême au Japon, le général Douglas MacArthur. celui-ci proposa de bombarder les bases chinoises qui appuyaient les Nord-Coréens. Son intention était en fait d'étendre le conflit à la Chine, alliée de l'Union soviétique. Mais devant le risque d'escalade américano-soviétique qu'une telle mesure aurait immanquablement entraîné, MacArthur fut destitué en avril 51 par le président des États-Unis, Harry Truman. Il fut remplacé par le général Matthew Ridway, qui fut chargé de maintenir les positions américaines à l'exclusion de toute action offensive. Cette guerre, où les deux superpuissances se sont opposées par alliés interposés, a fait 2 millions de morts. Elle s'est achevée par les accords de Panmunjom, signés le 27 juillet 1953. Panmunjom est un village coréen situé au sud du 38e parallèle, au sud-est de Kaesong, où se sont déroulés d'octobre 51 à octobre 52 les pourparlers d'armistice entre le commandement des forces des Nations Unies et les Sino-Coréens. Ces accords d'armistice ont donc mis fin à la guerre et ont été complétés en avril 53 par un échange de prisonniers. Cependant, aucun traité de paix n'a jamais été signé et la tension entre les deux Corées n'a pas cessé jusqu'à ce jour. Des escarmouches sur la ligne d'armistice sont fréquentes et parfois très préoccupantes. Il faudra attendre finalement le 12 juin 2000 pour que les dirigeants des deux pays se rencontrent une première fois à Pyongyang lors d'un sommet qualifié, à juste titre, d'historique. Au cours de cet événement, il a été décidé d'instituer une détente malgré de nombreux gestes symboliques, comme par exemple la rencontre le 15 août 2000 de centaines de familles jusque-là séparées. Pour autant, l'on ne peut en aucun cas évoquer l'existence d'un rapprochement intercoréen. Bien au contraire. En 2010, en 2012 et 2013, la Corée du Nord, qui s'est retirée du traité de non-prolifération nucléaire et s'est dotée de l'arme nucléaire, a multiplié les manifestations d'hostilité et les contentieux avec la Corée du Sud, mais aussi avec le Japon et les États-Unis. Autrement dit, la guerre froide terminée, le conflit qu'elle avait induit en Corée perdure plus que jamais car il s'est autonomisé. Dans la veine hollywoodienne, le film Un crime dans la tête fait peu de cas de cette guerre de Corée finalement. Il lui attribue la simple fonction de toile de fond. Il se centre plutôt sur la caricature de soviétiques présentés comme des manipulateurs capables de tirer les ficelles d'êtres humains réduits au statut de cobayes, décervelés et déshumanisés. Des soviétiques en quelque sorte deus ex machina, brisant des vies et des liens familiaux, comme celui de Raymond et de sa mère, liens oedipiens détruits par la toute-puissance de l'idéologie communiste présentée comme malfaisante et mortifère. À ce titre, ce film témoigne bien des représentations de l'ennemi qui régnait à Hollywood dans les années 60.